Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole tirée des premiers versets du livre de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Il répondit, « Je vois une branche d'amandier hâtif. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. » Je ne sais pas qui a lu récemment le livre de Jérémie en tant que prophète. Ce n'est pas forcément les écrits qui sont le plus couramment lu, on aime bien être dans les évangiles, on aime bien parcourir les épîtres pauliniennes ou de Pierre, etc. Et l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament sont parfois un petit peu oubliés. On se dit, bon, je ne sais pas trop comment cela peut me parler. Pourtant, il y a dans l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est-il dit. Mais il y a dans l'Ancien Testament des principes et une manière d'ouvrir et d'éclairer ce que doit être le salut dans nos vies et dans le peuple de Dieu. Et qui plus est, dans cette introduction, il y a vraiment une richesse et des choses qui nous concernent. Alors, on est sur l'introduction d'un livre majeur de l'Ancien Testament, un de ceux que l'on appelle les grands prophètes, Jérémie. Et c'est le début de son appel et de son ministère. Parole de Jérémie, fils d'Hilkia. Et les premiers versets, les trois premiers versets, sont des versets qu'on va dire introductifs, et souvent pour nous, ça ne nous parle pas trop. Je me trompe? Il y en a qui ont une révélation dans leur vie à partir des trois premiers versets du livre de Jérémie. Pas vraiment, hein, je sens bien à votre air dubitatif que qu'est-ce que je pourrais retirer de ces trois premiers versets. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. Et après, il est dit la parole de l'Éternel lui fut adressée alors qu'il était très jeune. Il était un adolescent. Hein, le mot nahar en hébreu, ce n'est pas un enfant, mais c'est un ado. Nahar. Donc, il est ado. Non, ce matin, on n'a pas d'ado. On a une pré-ado. Me regarde. Mais on n'a pas d'ado, on est au-dessus de l'ado. Donc, on n'en a pas ce matin. On peut dire du mal des ados, on ne court pas de risque. Allez, ou pardon. Et elle entend? Oui, elle entend. Elle est là, et puis il y a... Bon, on ne va pas dire de mal des ados, alors. Anaïs nous entend. La parole de Dieu lui est adressée alors qu'il est un adolescent. Et puis, il va rentrer dans un service. Et le verset 2 et le verset 3 semblent être juste des indications historiques. On dit que c'est au temps de Josias, un roi qui a eu une certaine relation avec Dieu, qui a été fidèle, mais aussi ensuite avec ses fils, trois fils et un petit-fils qui vont lui succéder. On se dit, mais oui, c'est juste une indication historique pour nous dire. Sauf que le règne ou le service de Jérémie va s'étendre sur 41 ans. 41 ans de 629 à 588 avant Jésus-Christ. Prenez des notes parce que ça, vous allez l'oublier. 41 ans, en tout cas, de service. Ça fait 42 ans que je suis à Kevin. Je ne sais pas si j'ai été un Jérémie ou si vous avez été touché par mes Jérémiades, mais en tout cas, j'ai à peu près la même durée de service ici à Kevin que lui en a eu pendant son ministère, à la fois dans le pays de Juda, mais aussi au-delà, puisqu'il terminera sa vie à la fin de ses 41 ans, vraisemblablement en déportation, emporté de force par, non pas les Égyptiens ou par les armées ennemies, mais emporté par ses propres co-religionnaires, c'est-à-dire d'autres Juifs qui disaient « Toi, on ne te laisse pas derrière, tu nous as fait assez de problèmes comme ça, on t'emporte avec nous. » Et on pense qu'il est mort vraisemblablement en Égypte. Pendant 41 ans, il a connu quatre règnes successifs. Et la parole de l'Éternel vint à lui dans les jours de Josias, fils d'Amon, etc., jusqu'à ce que Jérusalem fût emmenée en captivité. Son service s'est poursuivi, parfois dans une relative obscurité, au milieu des pauvres du pays, quand Nebuchadnezzar avait laissé une partie de la population. Lui, il est resté là, avec les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour l'envahisseur qui emmenait les personnes importantes, les jeunes, les artisans, etc. Et lui, il est resté au milieu de la population la plus pauvre. Et puis ensuite, il y a eu cette déportation vis-à-vis de l'Égypte. Et on pense qu'il est mort là-bas après avoir prononcé la dernière prophétie que l'on a de lui au chapitre 44 de son livre. Alors, ce prophète a vécu plutôt la triste partie de l'histoire d'Israël. Il n'y a pas de gloire là-dedans. C'est un moment difficile après la mort de Josias, trois de ses fils, un de ses petits-fils monte sur le trône. Et puis, ça va être des temps compliqués où les rois vont essayer de faire alliance, vont se tromper dans leur alliance, notamment le successeur de Josias va essayer de s'appuyer sur le pharaon égyptien, etc. Et puis, en fait, la chute de l'empire assyro-babylonien va donner naissance à l'empire babylonien qui, lui, va tout ravager. Et puis, comme parfois, on choisit le mauvais camp. Hein. Donc, c'est un temps compliqué pour exercer un ministère. Moi, je me dis... Je n'ai pas eu trop de difficultés, mais 42 ans à côté des 41 ans de Jérémie, en Bretagne, ça pas... Bon, parfois, on dit, oui, mais on a vécu des moments difficiles, et puis la terre bretonne, c'est une terre difficile, et puis l'Évangile a du mal à... À côté de Jérémie, c'est la Côte d'Azur. Hein? Non, vous ne croyez pas? Donc, il y a eu des temps difficiles pendant tout le ministère de Jérémie. Mais ce qui est intéressant dans l'appel de Jérémie, c'est qu'il devrait nous parler à nous. Ici, il est dit au verset 1, « Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. » C'est quand même extraordinaire, non? Ce n'est pas un verset qui vous parle? Non, pas du tout. Ah, pour moi... L'introduction du livre de Jérémie, elle n'est pas anecdotique. Vous savez, dans l'écriture, dans les détails, on dit que le diable se cache dans les détails, mais je peux vous dire que Dieu se révèle, lui, dans les détails. Et ce premier verset, il a de l'importance. Cette introduction, pour tout juif qui connaît l'histoire d'Israël, comme pour tous les chrétiens qui ont lu l'Ancien Testament, la mention de la lignée de Jérémie comme sa ville d'origine sont des éléments qui portent à réflexion et qui disent quelque chose d'important. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. Anatote, 4 kilomètres au nord-est de Jérusalem, petite ville en Israël dans le territoire de la tribu de Benjamin. Anatote avait été donnée aux fils d'Aaron. Vous connaissez le principe, lorsqu'il y a eu répartition du territoire, c'est que chaque tribu avait son territoire, mais les Lévites, qui étaient l'ordre sacerdotal qui descendait d'Aaron, eux, ils avaient des villes à l'intérieur des territoires de leurs frères. C'était le principe. Et ils devaient être nourris, devaient être pris en charge, un petit peu comme ça l'a été en France ou en Occident, avec l'Église chrétienne catholique qui, quelque part, s'était installée et était prise en charge par les seigneurs qui étaient environnants. Ben, Anatot, c'était une ville qui appartenait aux fils d'Aaron, dans le territoire de Benjamin. Et cette ville-là, elle a une particularité. Lorsque, au chapitre 21, Josué a exécuté cette ordonnance de donner aux Lévites des villes, Anatot a été donnée à des Lévites. Et ça, c'est une ville qui a une particularité, parce que si elle a été donnée aux fils d'Aaron, il nous est parlé de cette ville dans le livre des Rois, chapitre 2, verset 26. C'est toujours intéressant, lorsqu'on a un texte, de se dire, tiens, mais est-ce qu'il y a une particularité ou quelque chose de particulier sur les éléments qui y sont. Et Anatot a une particularité. En 1 Roi 2, 25, il y a une histoire un peu étrange. David meurt, ou il n'est pas encore mort. Il a froid, il est vieux, il est dans son lit, il n'arrive pas à se réchauffer, et il demande à ce qu'on lui apporte une jeune fille qui s'appelle Abishag, qui est sunamite, ça nous fait penser au Cantique des Cantiques, et il demande à ce qu'une jeune fille soit choisie, on choisit évidemment la plus belle, la plus jolie, la plus charmante, afin qu'elle puisse prendre soin de lui, le soigner, aller dans son lit, le réchauffer avec son corps, etc. Et puis David meurt. Et à ce moment-là, quand il meurt, eh bien, c'est Salomon qui prend sa place sur le trône. Mais il y a un frère qui envie dès le début du livre, premier livre des Rois, qui veut prendre la place de David et qui de ce fait va essayer d'acquérir des droits qui supplanterait ceux de Salomon. Alors, ce fils, c'est le fils de David qui s'appelle, j'ai oublié, Adonija. Adonija, il se dit, comment je pourrais faire pour supplanter le droit qui était accordé à Salomon? Alors, il va faire une chose, il va aller voir Bathsheba, la mère de Salomon, il dit, écoute, est-ce que tu pourrais pas intercéder pour moi? Ce serait bien, écoute, juste pour une petite chose. Et puis, il va demander à Bathsheba d'intercéder auprès de Salomon pour épouser cette fameuse sunamite, Abishag, afin quelque part de prendre une forme de concubine qu'il n'avait pas, et là, le texte de la Bible est précis, elle n'avait pas couché avec David. Mais c'était une manière d'augmenter, je dirais, ses droits sur la succession de David. Et puis, Bathsheba qui ne voit pas où est le mal, va voir Salomon, il dit, écoute, voilà, j'ai une petite demande, est-ce que tu pourrais accepter que ton frère Adonija puisse épouser Abishag la Sunamite? Et là, Salomon se met dans une colère noire, en sachant que ce Adonija avait placé ses pions, et notamment, il avait eu le soutien du souverain sacrificateur Abiathar. Tout le monde me suit? Vous y êtes? Vous êtes toujours avec moi? Donc, Adonija dit à Abiathar, le souverain sacrificateur, qui habite la ville d'Anatot, tiens, un lien, il dit, est-ce que tu me soutiens si j'arrive à détrôner mon frangin? Abiathar dit, pas de problème, moi je suis avec toi. Vous savez, ceux qui choisissent le mauvais camp, Abiathar a choisi le mauvais camp. Salomon, quand il apprend par sa mère que son frère veut épouser celle qui était dans le lit de son père, se met en colère parce qu'il voit la stratégie qui est là. Il voit ceux qui sont en face, et notamment un de ses chefs d'armée, Joab, mais aussi le sacrificateur Abiathar. d'Anatote, et puis son frère Adonijah. Du coup, il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, mon frère sera exécuté. Il fera tuer son frère, parce que son frère a essayé de supplanter celui que Dieu avait mis sur le trône d'Israël. Et, cerise sur le gâteau, le sacrificateur Abiathar, il veut dire, toi, et c'est dans, notamment dans 1 Roi 2, 26-27, Salomon va dire à Abiathar, toi, tu es un sacrificateur, tu as l'onction de Dieu, mais à cause de ce que tu as fait, tu retournes à Anatote et tu n'en sors plus. Et tous ceux qui sont d'Anatote seront privés du droit sacerdotal. C'est-à-dire que tous les sacrificateurs qui étaient à Anatote, du fait de la trahison d'Abiathar, ont été privés du droit d'intervenir dans les choses de Dieu. Moi, je me suis toujours dit, et je sais qu'il y a un exégète qui se posait la question, mais alors, ils ont fait quoi de leur vie après? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Parce que ça dure jusqu'à plusieurs centaines d'années. Ça dure jusqu'à l'époque de Jérémie. C'est-à-dire qu'à Anatote, vous aviez des sacrificateurs qui étaient sous le coup de cette condamnation, qui ne pouvaient pas être touchés, mais qui ne faisaient rien. Ils ne pouvaient plus faire de sacrifice ni quoi que ce soit. Ah, introduction du livre de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatote. Ça veut dire que, quelque part, Anatote, suite à cette condamnation d'Abiathar dans le passé, eh bien, Jérémie faisait partie de cette ville et faisait partie de cette famille. Et qu'il était privé du fait de son passé, de sa famille, de ses antécédents, du droit de servir Dieu. Ah. Vous savez quoi? Dans ce premier verset, on se dit, il ne sait pas ce qu'il veut, le Seigneur. Il dit, je condamne Anatote, il n'y aura plus personne, vous restez là-bas, vous ne bougez plus, personne ne me servira. Et puis, quelques centaines d'années après, il appelle, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Ben alors, elle est caduque, cette malédiction? Alors, maintenant, ils sont fréquentables, ils peuvent intervenir? Pas comme sacrificateur, mais comme prophète. J'ai envie de dire, c'est encore le cran au-dessus. Il deviendra le porte-parole de Dieu. Vous savez ce que ça dit, cela? Ça parle d'un Dieu qui est juste, mais aussi un Dieu qui est porteur de grâce. C'est-à-dire que même les condamnations de Dieu ne sont pas éternelles. Dans cette ville d'origine, la condamnation d'Abiathar, c'est quelque chose qui était connu pour l'ensemble du peuple d'Israël. Or, on a un homme qui tout à coup, un ado, qui tout à coup est appelé par Dieu à le servir. Un jour, dans un conseil, je vous l'ai souvent dit, un conseil de pasteur, un pasteur m'a interpellé parce que je refusais d'aller à Toronto avec eux. Parce que là-bas, il se passait quelque chose. Et moi, j'ai dit, bah non. On a fait un tour de table, tout le monde voulait y aller, puis moi, j'ai dit non. Et puis, un pasteur m'a dit, mais pourquoi tu n'y vas pas? Est-ce que tu es prêt à refuser la grâce que Dieu nous fait? Un voyage à Toronto, tout frais payé pour voir le Saint-Esprit agir. Tu vas rater le train de la grâce de Dieu. Et j'ai répondu à ce pasteur, on ne doit pas avoir le même Dieu, toi et moi. Parce que si, dans ma vie, j'ai une certitude, c'est que si je rate le train de la grâce, Dieu le fait repasser devant moi à un moment ou à un autre. Si je me trompe, et je me suis trompé dans ma vie, j'ai pu faire des erreurs, j'en ai fait. Mais la grâce de Dieu, est-ce qu'elle se renouvelle vraiment tous les matins? Est-ce qu'elle se représente devant moi pour me dire, mais ça, c'est pour toi? Donc, si je rate ce train-là en n'allant pas à Toronto, c'est pas grave, le train repassera. Finalement, personne n'est allé à Toronto. Et ici, on est devant un exemple typique dans l'Écriture de Dieu, non pas qui se repent, parce que pour se repentir, il faudrait avoir péché, mais qui revient pour manifester sa grâce, parce que Dieu est souverain. Et que même ses condamnations, il peut faire en sorte que sa grâce s'accomplisse et rencontre notre vie. Il y a plusieurs exemples dans l'Écriture. Entre autres, il y a Ruth. Ruth, c'était quelqu'un qui faisait partie de la tribu de Moab. Moab, il était dit que parce qu'ils avaient refusé de laisser passer, donner du pain et de l'eau au peuple d'Israël qui allait vers la terre promise, ils étaient maudits jusqu'à la 6e, 10e génération, etc. Et quelque temps après, Élimélec et ses deux fils, Mahlon et Kilion, vont en pays de Moab parce qu'il y a une famine à Bethléem. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà-t-il pas que les fils meurent, que les deux belles filles ont un choix, que l'une d'entre elles, Ruth, rentre dans la terre promise et que là, elle est épousée par Boaz et devient membre de la communauté d'Israël. C'est pas normal. Vous ne me direz pas que c'est normal. La parole de Dieu, c'est d'exclure. Une Moabite n'a rien à faire ici. Et certainement, pour beaucoup d'exégètes, il y a cette analyse sur le parcours de Ruth en Moab, dans le livre de Ruth, je vous invite à le lire, où le regard de ceux qui étaient à Bethléem n'était pas aussi favorable que celui de Boaz qui voulait l'épouser. Et cet inconnu, vous savez, qui avait un droit supérieur à celui de Boaz, Boaz lui a dit, est-ce que tu veux l'épouser? Toi, tu passes avant moi, tu as le droit. Et cet homme, on ne connaît même pas son nom, certainement que son regard, est-ce que, moi, épouser une Moabite pour que mon héritage aille à une étrangère? Jamais. Non, 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 vas-y. Ouais. Parce que la grâce de Dieu était supérieure à la condamnation de toute la tribu et de tout le pays de Moab. Notre jeune prophète, Jérémie, est dans le même cas. Ah, quand la grâce de Dieu agit. Alors parfois, dans nos vies, on peut se dire, oui, mais moi, est-ce que Dieu peut m'appeler, agir dans ma vie, me faire rentrer dans ses promesses, alors que dans ma famille, dans mes ancêtres, mes parents ont fait tel ou tel choix, etc., etc. Donc, je ne peux pas être choisi, je ne peux pas être appelé, la grâce de Dieu ne peut pas s'appliquer si la grâce de Dieu s'applique à chacun d'entre nous. J'ai envie de dire que l'appel de Jérémie, elle est néo-testamentaire. La grâce supplante la loi. La grâce est supérieure aux condamnations. Vous connaissez mon attachement à certains auteurs. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle Anne Ancelin Schützenberger, que j'ai découvert comme étant protestante, qui est spécialiste des transmissions transgénérationnelles, c'est-à-dire comment on transmet ou comment on reçoit dans nos générations ce qui nous vient d'hier. Et elle citait la question avec un autre, en reprenant les travaux d'un psychologue qui s'appelle Ivan Bozormeni-Nagy. Ne me demandez pas de vous le répéter, je ne pourrais pas. Je ne suis pas sûr de vous l'avoir donné dans l'ordre. Mais lui, il a parlé de deux choses, de certains principes, notamment la loyauté que des membres d'un groupe ont à apporter aux autres. On peut presque parler de balance des comptes familiaux, ou certains disent même comme un exercice comptable, c'est le grand livre des comptes familiaux. J'ai à respecter ce qui m'a été donné, transmis, déposé dans ma vie. J'ai une obligation de loyauté. Et certainement que dans la réaction de Jérémie, lorsqu'il dit « Moi, je suis trop jeune et je ne peux pas », derrière, on peut très largement imaginer, il dit « Mais attends, Seigneur, regarde-moi, moi, je suis d'Anatote, je suis de cette ville qui a été maudite, qui ne peut plus, on est toujours anatote, on a de quoi manger, vivre, etc., mais on ne peut plus servir. Qu'est-ce que je vais aller faire? Non pas d'être sacrificateur, mais d'être prophète. Je ne vais jamais être reçu, je ne vais jamais être accueilli, parce que je suis condamné. » Et certainement que dans nos vies, nous avons les mêmes loyautés qui viennent nous enfermer. et nous faire dire quand Dieu nous appelle, quand la bonté de Dieu, le recède de Dieu, comme pour Ruth, vient sur notre vie, et on se dit, mais non, regarde-moi, Seigneur, regarde d'où je viens, regarde qui je suis, regarde ce qui m'a été transmis, et ce que je veux respecter aussi en termes de loyauté par rapport à mes parents, ma ville. Du côté du Havre, on va avoir une église apostolique qui va ouvrir d'ici quelques semaines dans une petite ville à côté du Havre. Un peu plus grande que Kevin, j'ai envie de dire 2,5 fois Kevin. Et dans les années 30, il s'est passé un événement. Deux individus se sont battus. Et puis il y en a un qui, dans le combat, a arraché l'oreille de son adversaire avec ses dents. Ça s'est passé dans la première partie du XXe siècle, me semble-t-il. Et nous, on a toujours appelé les habitants de cette bourgade les maqueux d'oreilles, c'est-à-dire les mangeurs d'oreilles. Et tous les gens de cette ville qui s'appelle Montivilliers, c'est des maqueux d'oreilles. Et tous ceux qui y habitent ont cette identité. Ouais, nous, on est des maqueux d'oreilles. On est des mangeurs d'oreilles. Mauvais caractère, mauvais coucheur, violent, agressif, etc. Et il y a cette idée-là qui est véhiculée. C'est leur identité. Un peu comme, on porte quelque chose qui s'est passé. On ne sait plus où ni quand dans la ville, mais il y a presque un siècle. On va ouvrir une église chez les maqueux d'oreilles. Ouais. Parce que la grâce de Dieu fait que ce qui s'est passé hier est couvert par le sang de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, même ce que j'ai été, ce qui m'est transmis, ou même ce que j'ai transmis, je peux vous assurer que j'ai transmis des choses à mes enfants. Et parfois, je peux me dire, mais c'était pas juste, c'était pas bon. Oui. Mais j'ai une joie profonde, c'est que mes trois enfants se sont donnés à Christ et que la grâce sur leur vie est semblable à celle qui est sur la vie de Jérémie. La grâce est venue. Jérémie est entré dans un service sacerdotal et prophétique. Pas sacerdotal dans le sens où il pouvait devenir à nouveau sacrificateur, mais prophétique. Et dans l'introduction, parole de Jérémie. Jérémie, fils de Hilkia. Hilkia, c'est l'Éternel est élevé. En fait, on pourrait dire que par ces simples mots, Jérémie est au bénéfice de la grâce parce que l'Éternel est élevé. Et nous sommes nous-mêmes au bénéfice de la grâce de Dieu, quel qu'ait été notre passé, quelles que soient nos loyautés vis-à-vis de notre histoire familiale, de notre groupe familial, nous sommes au bénéfice de la grâce dès lors que Christ est élevé. Car, dit Paul, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je vous dis, et je proclame, et je n'ai pas peur de le dire, que toutes nos loyautés inutiles liées à notre passé, à notre identité, à notre histoire, tout cela est balayé afin de nous donner un nom nouveau, une identité nouvelle, si Christ est élevé dans nos vies. Fils de Hilkia, Dieu est élevé. Quel jour mémorable dans la vie de Jérémie quand Dieu lui parla pour l'établir dans cet appel et ce service prophétique. L'appel d'Ésaïe avait été solennel dans le cadre du temple, avec la vision de l'Éternel sur son trône, des séraphins, etc. Et puis il y a eu la réaction d'Ésaïe qui a dit « Malheur à moi, car je suis perdu, le charbon ardent pris sur l'autel où avait été consumé la victime, touche ses lèvres, et puis il est rendu saint. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Eh bien, je vous dis que c'est la même chose que Dieu fait au niveau de Jérémie, et c'est la même chose qu'il fait dans nos vies. Le sacrifice de Christ touche nos lèvres, notre bouche, et nous rend capables d'être porteurs des paroles de vie qui nous sont données par l'Esprit Saint. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais sanctifié. Le futur prophète, quand il dit « Mais je ne peux pas, je suis qu'un enfant », il l'appelle, dit « Avant que tu sois né, tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On est vraiment dans un texte, c'est pas prophète d'Israël, vous avez remarqué ? Ça, c'est une indication importante. Jérémie n'est pas appelé à être prophète pour Israël, mais des nations. Avant même la naissance de Christ, son appel concerne les nations, parce que le plan de Dieu n'est pas arrêté à Israël. Israël n'est qu'un moyen d'étendre le salut aux nations. C'est un outil. Et là, pour la première fois, on a un prophète dont il est dit, tu seras prophète des nations. Un peu hein, comme Pierre qui est appelé dans les évangiles et dans les actes des apôtres à être celui qui portera, qui dépassera, qui ira au-delà du salut envoyé pour Israël. Et quand il est dit ces mots, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Et je trouve fabuleux que cette grâce qui touche ce jeune garçon, cet adolescent, fasse tomber un mur. En fait, je vous ai dit qu'en lisant le livre de Jean d'Ormesson, Un chant d'espérance, il dit « Notre histoire à nous, elle est toujours coincée entre deux limites. La limite pour comprendre... l'histoire, la vie, le monde, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire jusqu'au plus extrême, la limite la plus extrême qu'on peut vérifier avec des outils mathématiques, etc. Et puis notre mort. Mais Dieu, j'ai jamais dit, il fait tomber déjà un mur, c'est avant tout ça, avant ta naissance, c'est-à-dire dans l'éternité passée, je te connaissais. Les savants vont jusqu'à une limite et Dieu dit à Jérémie, comme à Jean d'Ormesson, avant ça, là où les hommes et les savants s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus les outils pour savoir ce qu'il y a ou ce qu'il y a eu, moi je te connaissais. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Ça ne vous fait pas du bien de penser que Dieu vous connaissait avant votre naissance ? Dans l'éternité passée, le temps n'est qu'une fabrication, une création de Dieu. C'est une création de Dieu. Il est en dehors du temps. Moi, c'est quelque chose qui est un mystère, qui me fait jubiler. Puis je suis là, je sais que Patrick, si vous voulez savoir l'histoire du temps, demandez à Patrick, il a les clés. Il est passionné par toute la science, toutes les choses de cette nature-là. Moi, je suis là comme un néophyte, et je regarde ça et je dis, waouh, Dieu est tellement grand. Avant que je ne sois enfanté, formé, je te connaissais. Et c'est une formule verbale, je dirais, je te connaissais, toi, pas vous. On peut dire, vous, je vous connaissais. Non, c'est toi. Et pour l'adolescent qui était appelé par Dieu, ça devait être d'un très grand réconfort. C'est-à-dire que toute la loyauté familiale, l'histoire d'Anatote, etc., on en fait table rase. Toi, je te connais. Et il dit ceci, avant que tu sois sorti, je t'avais consacré. Ça veut dire que avant même que tu sois né, je t'ai mis à part. Est-ce que tu as conscience ? Est-ce que j'ai conscience que j'ai été mis à part avant même que je le connaisse, lui ? Lui me connaissait, mais moi je ne le connaissais pas. Mais il m'avait déjà mis à part. Et quand il est écrit « Je t'avais établi prophète des nations », En fait, dans l'hébreu, ce n'est pas établi dans le sens du verbe que nous avons en français, c'est « je t'avais donné, Nathan ». Je t'avais donné, je t'ai donné comme prophète pour les nations. Un cadeau. Et ça m'a renvoyé, moi, à ce livre de Donald G., qui est un des précurseurs de l'Église apostolique au XXe siècle, et qui a dit « les ministères, c'est quoi ?» Il a fait un livre sur les ministères. Il dit, les ministères, c'est des dons de Dieu pour les hommes et pour l'Église. Des dons. Jérémie, je t'ai donné. Tu es un don. Oh. Dites ça à un adolescent qui est en quête d'identité, de valeur. Si jamais vous avez une fille qui serait présente ici dans l'église, dites-lui que c'est un cadeau. Tu es un cadeau de Dieu. Pour moi, en tant que père ou en tant que mère, tu es un cadeau de Dieu pour l'église. Il n'y a rien de plus important que de développer le sens de la valeur de l'autre. Moi, je peux dire sans Dieu m'a fait cadeau d'une femme, un vrai don. C'est un cadeau. Je ne suis pas sûr que ce soit réciproque, la pauvre, mais c'est un don. Hier, on a fait des cadeaux aux mariés et... On a offert ce tableau avec ce verset « Mon bien-aimé au milieu des jeunes gens est semblable à un pommier au milieu des arbres des forêts. » C'est-à-dire que les autres n'ont pas beaucoup d'intérêt. Comme des arbres dans une forêt, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, c'est des arbres. Mais mon bien-aimé, c'est comme s'il y avait un pommier au milieu des arbres. Alors on lui a fait un tableau, etc. Et puis on lui a offert un bon d'achat pour deux pommiers aux deux mariés. Et toute la journée, ma femme m'a fait... des bisous en me disant « Ah, mon pommier, ah, mon pommier !» Je dis « Bon, comment valoriser l'autre en disant « Tu es un don ?» C'est ce que Dieu dit dans dans les premiers versets. « Je t'ai établi, c'est « Je t'ai donné, tu es un cadeau !» Dans l'Église, tu es un cadeau de Dieu pour les autres. En termes de service, tu es un cadeau de Dieu. Quel que soit ton regard sur toi-même. Il ne faut jamais que je l'oublie ce coin-là. Tu es un don. Dire cela à un enfant, je vous assure que cela le construit. Que les regards, les paroles des autres qui viennent le discréditer, à un moment donné, le fait d'être ancré dans cette parole que vous avez déposée, tu es un don de Dieu, eh bien, ça lui permet de se tenir debout et enraciné. Alors, je voudrais juste terminer ce partage sur la suite de ces versets. Je ne sais pas parler, je suis un ado. Donc, c'est la réponse de Jérémie à son appel. Là, il est toujours habité par ce qui lui a été transmis à Anatote. Je pense que tous les enfants d'Anatote, les parents ont dû dire, bon, je vais t'expliquer, on est à Anatote, on est dans une ville réservée aux sacrificateurs, mais on a une malédiction sur nous, du fait de la désobéissance d'un de nos ancêtres qui s'appelle Abiathar. J'ai entendu souvent dans mon travail des patientes en situation d'addiction dire, mais c'est parce que dans ma famille, il s'est passé ça, ou on m'a dit ça. Je me rappelle d'une patiente qui, sa sœur est décédée avant sa naissance et la maman a voulu une deuxième fille pour remplacer celle qui était décédée, lui a donné le même prénom et puis l'a considérée comme si elle était l'autre. Et quand cette femme-là s'est retrouvée dans cette situation-là, au fil des années, cette négation de qui elle était l'a conduit finalement à trouver du soulagement dans les produits. Est-ce que je peux considérer que Dieu m'a voulu, moi, et qu'il me regarde avec bienveillance? Lorsqu'il est dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas, je n'ai pas, l'Éternel dit à Jérémie, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous savez, on retrouve là, dans l'appel de Jérémie aussi, un texte sur lequel certainement je travaillerai prochainement, et que j'ai introduit déjà en réunion de prière, c'est cette vision du prophète qui, Zacharie, voit Josué auprès de Dieu, avec Satan d'un côté, présent, et puis l'ange de l'Éternel prend un charbon ardent, touche la bouche du prophète, et puis à Josué, et dit, voilà, tu es pur maintenant. Vous savez, vous pouvez considérer que votre bouche n'est pas digne de porter le message du salut. Que votre bouche est impure parce que dans votre vie, parce que dans votre histoire, parce que dans votre famille, peut-être même parce que dans votre pays, on avait un grand débat avec Francine sur la position de la Suisse dans le passé, etc., liée aux commémorations. Et parfois, je pense que certains Suisses peuvent porter un sentiment de malaise, de mal-être par rapport à la position de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Cette réalité de ce qui est dit ici, j'ai touché ta bouche, aujourd'hui tu peux parler. Tu peux parler et dire et être. Josué est installé comme celui qui portera la parole de Dieu. Et toi aussi, et moi aussi, quel que soit ton parcours, ton histoire, Dieu touche ta bouche, tes lèvres, et te rend pur. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Waouh ! Qu'est-ce que tu as à dire de la part du Seigneur, maintenant ? Qu'est-ce que tu as à dire ? On a plein d'excuses, comme Moïse. Je bégaye, je suis trop jeune, je suis un ado. On voit des grands hommes de Dieu qui diront, maintenant, je ne peux pas être habilité. Si, parce que Dieu a touché ton être et ta bouche. Juste après, j'ai terminé ma lecture avec cette histoire. Qu'est-ce que tu vois ? Et je vois un amandier. En fait, dans le texte hébraïque, c'est quelque chose qui parle de la volonté. L'amandier hâtif, c'est toujours un symbole qui parle de la volonté de Dieu d'agir rapidement. C'est l'histoire des bâtons qui fleurissent dans le tabernacle, etc. Et vraiment, c'est ce message-là. Qu'est-ce que tu vois ? Oh, une branche d'amandier ? Ouais, ça veut dire qu'en fait, je vais agir rapidement. Ça veut dire aussi que Dieu veut agir rapidement dans nos vies pour que nous puissions grandir, parler, dire, être. C'est pas, oui, donc, ouais, Seigneur, je reconnais que tu peux agir dans ma vie dans les années qui vont venir. Et je m'attends à toi dans les 10 années qui viennent. Non, non, maintenant. Je veux agir maintenant et rapidement dans ton existence. Est-ce que tu es prêt ? Afin que tu sois établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est vrai que la première partie de la description du service de Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Alors déjà, en Christ, nous sommes établis sur tous les royaumes, entre guillemets, spirituels qui peuvent exister. En lui, pas en dehors de lui, hein, mais en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus des royaumes et des dominations. Et nous sommes là, alors, quand Jérémie a reçu cet appel, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Seigneur, il y a d'autres options. Moi, tu sais, arracher, abattre, ruiner et détruire, ça m'emballe pas trop. Moi, j'aurais été à la place de Jérémie, j'aurais dit, écoute, il n'y a pas quelqu'un d'autre. T'as trouvé personne d'autre. Mais en fait, ce qui est dit à Jérémie, c'est que être en position d'autorité, assis dans les lieux célestes et porter la parole de Dieu, c'est effectivement arracher et abattre ce qui n'est pas du royaume de Dieu au milieu du peuple. C'est ruiner et détruire l'œuvre de l'adversaire, ce qui n'est pas juste. Est-ce que c'est notre appel à nous aussi au milieu de ce monde et aussi au niveau de l'Église de pouvoir dire ça, c'est à arracher, ça, c'est à conserver, ça, parce que notre appel, c'est avec l'aide du Saint-Esprit de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est à cela que Jérémie a été appelé. Et la dernière partie, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et la question, c'est, est-ce que je me contente de détruire, d'arracher, de ruiner, d'abattre? Ou quand je fais cela, est-ce que je suis aussi dans cette fonction spirituelle de bâtir et de planter? Quelqu'un me disait un jour, si Dieu me demande d'aller planter un pommier au fond de mon jardin, j'irai le planter. C'est tout à fait ça. Combien de pommiers est-ce que j'ai planté? Combien de parties dans l'Église j'ai pu élever, construire, bâtir? Voilà, on est juste sur les 5 premiers versets du livre de Jérémie. Il y a du boulot pour travailler le reste du texte. Mais je trouvais que c'était un beau texte. Alors j'espère que vous en avez reçu un petit peu, comme on dit, la substantifique moelle. On va remercier le Seigneur. Seigneur, cet appel sur la vie de Jérémie, cette parole que tu nous donnes, elle retentit encore aujourd'hui pour nous et dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, de considérer que ta parole est une parole d'hier, un peu comme si le pain que nous mangeons était toujours le pain d'hier, d'avant-hier, d'autrefois et pas facilement utilisable. Ta parole est vivante. Ton Esprit Saint peut nous révéler ce qu'elle porte en germe pour nous construire, nous élever, nous édifier intérieurement. Donne-nous faim et soif de ta parole. Donne-nous faim et soif de toi, Seigneur. Par ton Esprit Saint, vraiment parle à nos cœurs pour que nous puissions bâtir et planter tout autant que d'arracher ce qui n'est pas digne d'être présent dans nos vies et dans ton Église, Seigneur. Merci pour l'action de ton Esprit. Amen. Amen.